refuser la culture, refuser la connaissance. La culture, c'est un mot que j'aime pas non plus. Parce qu'il est très frelaté déjà. Quelle culture? La culture bourgeoise, bien sûr. Non, je veux dire la connaissance qui est autre chose. Connaissance, c'est l'ensemble de ce que peut avoir accumulé l'homme par le langage et par la transmission des informations, la transmission des expériences. Depuis, je répète, depuis 2 millions d'années et surtout depuis 12 000 ans.
Radio Libertaire, 42, 62, 90, 51. Henri Damoury jusqu'à 20h30. Bernard Ayan, ne faut pas croire au temps qui passe. Henri Damoury, à propos de connaissances, quel est ton sentiment sur les moyens qui se développent actuellement, notamment informatiques, pour accéder à la dite connaissance? On a aujourd'hui, ça existe, si on ne l'a pas tous sous la main, bien sûr, des ordinateurs qui, en très peu de temps, fournissent le renseignement que l'on souhaite archiver à l'autre bout de la planète et par satellite, ça nous parvient tout de suite, etc. Bon, il y a des moyens extraordinaires d'accéder à la connaissance. Là, on peut dire la connaissance parce qu'on tend vraiment à rassembler par ces moyens-là toutes les connaissances.
Bon, c'est un problème qui se pose pour moi journellement.
Un collaborateur
est loin du SVP
qui a une soixantaine d'années, mais qui a très suivi le mouvement informatique et qui, donc bien qu'il soit plus jeune,
est très moderne dans ses... Après, il me voit travailler et lire des quantités d'articles qui me disent tellement plus simple d'avoir un ordinateur et d'appuyer sur un bouton. On aurait à la banque centrale aux États-Unis toutes les informations qu'on voudrait. J'ai utilisé ce type d'information déjà, d'ailleurs, dans certains cas. Un jour, je travaillais sur un cadmium, un sel toxique, un métal toxique, mais on appelle un métal lourd. Et j'ai demandé à un ministère de l'Environnement, c'est un des toxiques que l'on rencontre dans la nature, et surtout dans la nature des grandes villes, si j'ose dire, qui n'est plus naturel du tout. J'ai demandé qu'on mettre sur ordinateur le cadmium, et puis que j'ai reçu une bande de papier qui faisait 12 mètres, sur lequel tout ce qui avait été écrit sur le cadmium était, et qu'est-ce que j'ai pu en foutre? Rien. Il y avait le nom des auteurs, le titre de la publication, mais choisir dans tous ces titres, il y en avait peut-être 3000 ou 4000, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. Alors, je pense que ce type de connaissance, c'est sûrement intéressant, bon, ça, je veux bien, mais... Faut-il encore que ça se rejoigne dans un cerveau humain avec d'autres choses, que ça soit classé, cette connaissance. Et devant un superbe tas de cailloux, je n'aurais pas la même émotion que j'aurais devant le Parthénon, j'ai vu l'autre jour. Bon. Et encore, qu'est-ce qui reste du Parthénon? On l'a déjà dépouillé, les Anglais, les Français, tout le monde a pris un petit morceau. Bon. Enfin, ce qui en reste quand même, c'est pas un tas de cailloux. Bien. Alors. Si je vois comment je voudrais m'exprimer, c'est grossier, je me trompe peut-être. D'ailleurs.
Parler de structure.
Voilà. C'est-à-dire que la connaissance, ça ne veut pas dire la structure. La structure, c'est l'homme qui l'a fait. Et on peut avoir tous les renseignements qu'on veut sur un problème. Et il y aura toujours quelqu'un. Il faudra toujours quelqu'un pour rassembler ces éléments et en faire quelque chose.
Et encore un sous-travail à effectuer, quoi.
Un sous-travail, c'est leur travail, le seul.
Le premier, c'est de glaner quand même tous les renseignements.
Et tu me dis ça d'ailleurs, je comprends très bien. Après ce que j'ai dit sur les jeunes qui... les connaissances qu'ils peuvent acquérir, qu'ils pourraient acquérir, ça ne voudrait pas dire qu'ils soient conquis par ces connaissances, qu'ils croient que ces connaissances sont la vérité. Sans ça, il n'y aurait plus besoin... Il n'y aurait plus besoin actuellement de chercher autre chose que ce qu'on a. Si on trouve des choses nouvelles, c'est parce qu'à partir des connaissances antérieures, on fait quelque chose qui n'a pas été fait. Alors, je pense que c'est un bon moyen. Et alors, j'ai un autre type d'expérience, si tu veux. Dans un article, actuellement, toutes les grandes revues internationales, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. Bon, il y a 5 ou 6 mots-clés, et c'est ceux-là qui sont mis en ordinateur. Bon, il se trouve, quand tu lis l'article, il y a une petite phase qui se rapporte à quelque chose qui n'est absolument pas dans les mots-clés, qui fait tilt dans ton crâne.
C'est le principe du dictionnaire analogique.
Si tu veux, oui. Bon. Ça fait tilt dans ton crâne et c'est cette petite phrase-là qui va te conduire à autre chose.
On peut d'ailleurs attester ça au Minitel aujourd'hui.
Ah ben, je veux bien.
Plus on aura du gazon, mais c'est quand même ce principe-là.
Ah oui, bah, et ça, tu ne peux pas le mettre en mémoire, si tu veux.
Le seul problème, c'est que les mots-clés sont déjà écrits. C'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, les choisir. Enfin, tu choisis ce qui est déjà présent.
Ce sens-là, je veux dire. C'est que si tu voulais avoir vraiment l'ensemble des articles, tu mettrais ta vie. Rien que sur Canon, j'aurais mis 10 ans, rien qu'à lire tout ce qui a été écrit actuellement. Bon. Donc tu es forcé de choisir sur quelques petites indications qui t'indiquent ce qui peut t'intéresser. Or, dans un article, c'est justement passé ce qui intéresse tout le monde et le but de l'article qui souvent, et même très souvent, t'intéresse, c'est la petite chose, la relation que le type, sans s'en rendre compte, a établie entre deux problèmes, deux phénomènes, deux faits, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ni dans les mots-clés, ni pour lire l'article. Donc, ma méthode de travail est assez néolithique, je veux dire, mais finalement, n'a pas été tellement préjudiciable et ça m'oblige à travailler beaucoup. Mais d'une façon différente que celle que j'aurais pratiquée si j'avais à ma disposition un ordinateur me donnant des renseignements en appuyant sur un bouton. C'est pas la même chose. Tu as tout de suite mis le doigt dessus. Ce dont je veux parler, c'est qu'entre les faits accumulés et la structure, il y a un cerveau humain qui doit passer. Et la structure, on ne peut pas te la donner, c'est toi qui l'as fait.
Tu vois ça avec optimisme ou avec pessimisme?
Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour dire optimisme ou pessimisme. Je pense que quand je vois les enfants dont les parents s'étonnent, il y en a qui sont très forts, paraît-il, et qui ont compris les mécanismes microscopiques qui font fonctionner les ordinateurs, les mémoires, les associations, etc. Ce qu'est le système expert, ce qu'on appelle actuellement le système expert, etc. Mais la majorité appuie sur des boutons, ils sont tout contents de voir des images. Alors, c'est la même chose que pour la théorie des ensembles avant. La théorie des ensembles, si on l'apprenait à la maternelle, on commence à dire, si ça reprend ça comme les règles de bridge, bah, ça ira pas loin. C'est qu'il faut rentrer dans son système nerveux et travailler. Avec cet apprentissage pour faire autre chose.
Une autre question, Henri Laborie, ne penses-tu pas que le blocage des informations, c'est une question d'auditeur, oui, vient de la génération actuellement âgée? Enfin, est-ce qu'en clair, est-ce que c'est les vieux qui bloquent les informations?
Oui, non, oui. Oui, en partie. Ce qu'on appelle un vieux. Bon.
Ce qu'on appelle un vieux.
Oui, oui. Non, mais... on n'aura pas appris. On leur a appris qu'il y avait des hommes productifs et la société dans laquelle ils ont vécu, qui leur a permis de vivre, est certainement la meilleure. Donc toute forme de société nouvelle est à rejeter. Donc ils bloquent les... Ce n'est pas qu'ils les bloquent, ils ne les entendent pas. J'ai parlé ici aussi du signifiant et du signifié, il faut que... Si tu as des automatismes conceptuels, mais aussi langagiers, culturels, n'importe lesquels, et que tu ne sais pas que ce sont des automatismes, ce que tu pourras entendre n'arrivera pas jusqu'à toi. Tu l'entendras, bien sûr, ton oreille l'entendra, mais il ne pénétrera pas dans un système dans ton cerveau, de façon à rentrer en relation avec... Ce que le cerveau contient déjà, qui te suffit largement, c'est la vérité. Alors en ça, les vieux bloquent l'information. Mais on a dit souvent qu'à partir de 35 ans, l'homme ne trouve plus rien. C'est faux. Je suis là d'ailleurs pour montrer que c'est pas vrai.
Et plutôt du genre affirmer qu'avant 35 ans, on ne peut pas trouver grand-chose.
On peut trouver des choses, mais avec beaucoup de chance. À 35 ans, j'ai trouvé une découverte fondamentale, mais avec de la chance, comme disent les anglo-saxons, par serendipity, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Si on croit à toutes ces informations, et ça, alors là, je vois des jeunes actuellement, des jeunes, enfin, 35 ans, qui, dès que c'est écrit, c'est vrai. Dès qu'il y a une publication sérieuse, Brain Research, enfin, des grands journaux, c'est écrit, c'est vrai. On s'aperçoit 10 ans après que les gens se sont foutus le doigt dans le nez, enfin, dans l'œil. Bon. Donc, les informations, on doit les accueillir. On doit les accueillir, mais absolument pas croire que c'est la vérité. Même des informations testées, très scientifiques, si tu veux, bien démontrées. La démonstration est toujours dans un sous-ensemble. Alors, dans le sous-ensemble, ça marche, mais dès que tu le colles dans l'ensemble qui l'englobe, ça ne marche plus. Donc, il est intéressant de le connaître, mais pour savoir que ce n'est pas forcément la vérité, que ça va changer si tu essaies d'avoir les niveaux d'organisation englobés les uns dans les autres jusqu'à la société et l'espèce. C'est pour ça que les jeunes, ayant moins mémorisé, alors là, allons à l'absurde et à la caricature, un enfant qui vient de naître ne peut rien inventer, n'a rien trouvé, et il n'a pas d'information à fournir puisqu'il n'a rien appris. Donc l'information est liée à l'apprentissage et à la connaissance. Mais si cette connaissance s'enferme dans des automatismes conceptuels, culturels et tout ce que tu voudras, alors là, c'est fini, évidemment. Alors, très souvent, comme en plus la société a récompensé l'adulte et l'homme, déjà d'un certain âge, par une ascension hiérarchique, des décorations, le salaire, etc. Bon, alors, ils pensent que c'est ça, la vérité, que puisqu'on l'a reconnu, il n'y a pas autre chose à faire. Mais c'est la même chose avec les professeurs. Tu vois, quand le professeur que ses pairs ont reconnu digne d'enseigner, ah, il détient la vérité, c'est s'il va pas enseigner l'erreur. Et moyennant quoi, puisqu'il a la vérité, pourquoi aller la chercher ailleurs? Donc c'est une vérité partielle, toujours très, très fragile, et qui varie avec le temps, les époques, etc. Donc ça donne forcément beaucoup d'humilité. Si bien que je ne pense pas que ce soit des gens âgés qui bloquent l'information seulement, il y en a beaucoup, mais je crois que c'est une conception de la vie qui bloque l'information. C'est une conception des groupes sociaux qui bloque l'information. Un bloc social a une structure, il ne veut surtout pas la perdre. Structure hiérarchique de dominance, bien sûr, et il ne veut pas la perdre. Donc, que toute information qui n'entre pas dans ce style, que ce soit à l'est, à l'ouest, au milieu, ne sera bloquée.
Radio Libertaire, Henri Laborie, 42 62 90 51. Radio Libertaire, Louis Capard, quand nous aurons 100 ans, je ne sais pas si on aura 100 ans, Laborie, lui, il faut reconnaître, il est bien parti pour.
Bon, si je bois, puis vivre 100 ans, si on est complètement gâteux, ça ne veut pas...
Oui, c'est sans grand intérêt. Une autre question au téléphone, tu avais une précision peut-être à faire sur la question précédente, le blocage des informations par la génération la plus ancienne.
Non, un sujet qu'on pourrait développer pendant 2 heures, hein, c'est pas...
D'accord, bon, donc on ne retient rien de la discussion en antenne. Alors, une autre question téléphonée. Je précise que tu y as déjà répondu il y a plus d'un an, mais c'est normal que les auditeurs réécoutent la station ou la prennent depuis il y a un an. Qu'as-tu trouvé, connu comme exemple de civilisation qui n'est pas basée sur la dominance, sur la domination?
Bon, moi, je parlais ici des civilisations du Pacifique, enfin, oui, civilisations du Pacifique Sud. Je ne vous en parler encore, je fais tout un rapport à l'Association mondiale de psychiatrie qui m'avait envoyé, passé un mois et demi.
En résumé, quand même, ce qui t'avait frappé, c'est des enfants de dire, tiens, t'as vu tel autre enfant, il me ressemble beaucoup, tu trouves pas? Puis le lendemain, il te reposait la même question, et celui-là ou celle-là, tu trouves pas qu'elle me ressemble? Alors tu t'en étais étonné, et le gamin t'avait dit, bah oui, bah, il paraît que mon papa était particulièrement...
C'est pas un gamin, c'était une femme sordide, d'ailleurs, charmante, qui était ma guide, en Polynésie, oui. Oui, mais
donc, si vous voulez, la famille a une structure radicalement différente.
Oui, parce que la propriété n'existe pas. Dans un pays où la propriété n'existe pas parce que tout le monde a ce qu'il lui faut, c'est quand on parle d'Éden, c'est vrai, bon. Alors, on ne va pas prendre à l'autre ce qu'on a déjà. C'est toute une conception de la vie qui est différente. Si on essaie de chercher la dominance, c'est pour pouvoir obtenir des objets gratifiants que l'autre n'a pas. Alors, effectivement, j'ai déjà dit 20 fois ici, autour du 20-45e parallèle, c'est dans les pays tempérés. À la fin de la dernière glaciation, il y a eu des hivers et des étés, alors je ne veux pas recommencer, j'ai déjà dit ça 20 fois, je l'ai écrit 30 fois.
Ça se trouve sur cassette, d'ailleurs, et c'est
alors, mettons pas ça. Et la dominance, la recherche de la dominance n'est pas une chose obligatoire, et surtout dans une société qui se dit l'abondance, tu te rends compte. L'abondance pour certains et pas pour d'autres.
La liberté d'être riche.
Oui, mais ça aussi, j'ai écrit que le clochard et le PDG, le milliardaire, ont tous les deux la liberté d'aller coucher sous les ponts, mais le clochard en profite. Ils sont libres tous les deux. Je pense que ça, je peux en mettre ça.
Bon, est-ce qu'on ne retrouve pas dans ces sociétés-là où il n'y a pas la femme qui appartient à l'homme et l'enfant qui appartient aux deux, aux deux premiers, est-ce qu'il n'y a quand même pas d'autres formes de dominance?
Non. Ils ont beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour la beauté physique. Mais cette beauté physique disparaît avec l'âge. Alors, selon l'âge.
Selon leurs critères.
Selon leurs critères. Leurs critères, les Polynésiens, ils sont très beaux, les femmes polynésiennes. Et les hommes, ils sont beaux. Mais, suivant le critère à nous. Bien. Mais je pense que c'est pas tellement ça. Ils ont une anxiété, même des dépressions. Parce qu'ils sont, ils sont tellement heureux que le temps n'existe plus. Pour concevoir le temps, il faut que la veille soit différente. Il faut avoir une histoire. L'histoire de l'individu, c'est âge dans le temps. C'est le schéma corporel, l'image qu'il a de lui-même qui évolue dans le temps. Et à partir du moment où tous les jours sont pareils, et que c'est un perpétuel été, ils sont confus dans le temps. Et d'autre part, une autre raison, avant que l'époque moderne où nous sommes venus, nous les Occidentaux, ils étaient enfermés dans une île où ils étaient venus à l'époque où les glaciers, une grande partie de l'hémisphère nord, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'eau dans les mers, et on pouvait passer plus facilement d'une île à l'autre, ils ont peuplé ces îles, beaucoup d'audace, et puis ils savent qu'ils sont enfermés dans cette île et que pour aller dans une autre, il faut faire un long voyage avec une pirogue, un balancier, je veux bien, mais c'est pas du tout cuit. Alors, ils sont inquiets, ils voudraient savoir ce qu'il y a derrière. Alors ils ont leurs mythes qui se sont transmis de génération en génération, plus de 4000 ans, plus de 5000 ans, et ça ne leur suffit pas, ils voudraient savoir si c'est la vérité. Alors, c'est ce qui a été leur malheur, c'est quand les hommes blancs sont arrivés, Scott et les autres, ils étaient une source d'information sur un monde qu'ils savaient exister, mais dont ils n'avaient aucune nouvelle. Alors, ils ont voulu les recevoir avec des arcs et des flèches, ils les ont accueillis avec des colliers de fleurs, puis les femmes, voilà, etc. Et alors évidemment, les autres en ont profité, ils ont trouvé que c'était un Éden, d'accord, mais à ce moment-là, ça a été foutu. Et actuellement, effectivement, quand un petit Polynésien voit un enfant d'immigré, je pense que nous sommes des immigrés, là-bas, il faut bien se rendre compte, la Nouvelle-Calédonie aussi, nous sommes tous des immigrés. Bon, il voit un enfant d'immigré, il a les mêmes réactions que certains d'entre nous. Vis-à-vis des immigrés ici, et surtout quand ils voient que l'immigré a la dominance, c'est-à-dire ce qui n'est pas le cas, qu'ils voient qu'il a une grosse moto, et puis il fait brom, 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 les filles sont ébahies, il veut avoir une grosse moto aussi, alors comme il n'a pas la notion de propriété, il la fauche, il la prend pas, il la fauche pas, à partir du moment où il n'y a pas de notion de propriété, il n'y a pas de vol. Et j'ai déjà dit sans doute ici que j'ai vu arrêter un gosse de 14 ou 15 ans, une Pacifique Sud, entre deux gendarmes avec des menottes. Puis j'ai approché, j'ai demandé ce qu'il avait fait au bout de la paye, juste en train de voler. Et le gosse m'a regardé en souriant, puis il a dit « Non, j'ai pris. » Parce qu'effectivement, il l'aurait remporté sur une tondeuse à gazon, il l'aurait remporté le lendemain soir ou le soir même. Parce que... Alors effectivement, quand on vous prend votre appareil radio dans votre bagnole, qui est bien à vous, on met une bombe dans la bagnole et puis on la fait exploser quand le type vient là. Là, on a puni le voleur, etc. On est tout content. C'est toute la réception de la vie, je ne peux rien, c'est pas moi qui pourrais changer quelque chose. À Radio Libertaire. Radio Libertaire 89.4, je redonne le téléphone, 42 62 90 51, Nicole, qui est à la technique, va pouvoir nous donner le titre qu'on vient d'écouter.
C'était Claude Ferron, Va danser.
Voilà, Claude Ferron, qui était présent à notre dernier gala à la Mutualité. J'ai oublié de préciser que c'est Jean qui est au standard. Je ne sais pas s'il se présente lui-même, d'ailleurs, quand il décroche. Bon, testez-le. 42, 62, 90, 51. Voilà, on poursuit en compagnie d'Henri Laborie. On a un peu plus d'un quart d'heure encore ensemble ce soir. J'ai deux questions là, sous la main, si je puis dire, deux questions d'auditeurs. D'où vient l'apathie ou paresse mentale de certaines personnes et de tout âge ?
Bon, ben simplement, ils ne sont pas motivés, ils sont moins intéressés par leur environnement. Et cette apathie, sinon pas pour le chloromazine ou le tranquillisant, cette apathie vient du fait qu'ils ne s'intéressent plus à rien. Ça, c'est parce que le... En réalité, ce qu'on appelle l'apathie, c'est l'absence d'affectivité. Alors, ça peut venir de quantité de facteurs. Le premier étant celui que l'affectivité ayant toujours été rabrouée, les gens n'ont jamais été satisfaits, on se fatigue. Alors, d'un certain temps, on devient apathique. On n'aime plus, on n'est plus gai, on n'est plus heureux, etc. Et puis, il y a l'apathie de certains vieillards qui vient soit d'une maladie comme, par exemple, la maladie de Parkinson, dont on commence à bien comprendre les mécanismes, qui est une maladie, c'est-à-dire qu'il y a une akinésie, on ne bouge pas, on est bloqué, on n'a plus les moyens d'agir sur l'environnement. Et ça, c'est une
motricité qui a attaqué.
Oui. Et puis, il y a l'apathie... du grand vieillard qui se désintéresse de son milieu parce que il y a longtemps qu'il était à la retraite, il a plus de motivation fondamentale et où il rentre dans un petit sommeil bien peinard. Quand on dit qu'il revient, il retombe en enfance, c'est peut-être un peu trop dire parce que les enfants ne sont pas sympathiques en général, ils explorent, ils cherchent dans leur milieu, ils ont besoin de connaître et de. Le jeu n'est pas autre chose, c'est une façon d'explorer l'espace dans lequel on est.
Alors l'autre question, il y a une expression un peu amusante là, que je te livre. Est-ce que les gènes du conditionnement ne sont pas plus forts que les gènes physiologiques ?
Je ne connais pas de gènes du conditionnement.
C'est amusant, mais il y avait des guillemets quand même. Hein.
Pas de gènes du conditionnement, il y a les gènes, ça sert à coder des protéines et à déterminer, si l'on veut, ce qu'on appelle un phénotype, c'est-à-dire une structure d'éléphant, une structure humaine, un aspect extérieur et intérieur, d'ailleurs, qui fait qu'un homme n'est pas un éléphant, ni un rat. Alors ça, c'est le génotype commande au phénotype, mais un conditionnement, c'est quelque chose qui est appris. Il n'y a pas de gène de l'apprentissage. Si l'on veut, il y a des gènes qui vont... être à l'origine de la formation dans le cerveau humain, ou le cerveau animal d'ailleurs, parce que ça, l'homme n'est pas différent d'animal pour ça, de certaines structures cérébrales qui permettront l'apprentissage, qui conserveront les traces des expériences passées, qui, par les phénomènes de mémoire, de synthèse de protéines, de transformation des cytosquelettes, etc., bref, et les traces des expériences passées vont rester donc marquées dans ces neurones et à ce moment-là, c'est le comportement va découler de ces expériences. S'il y a une expérience malheureuse, on ne recommencera pas, à moins d'être masochiste, mais là aussi, masochiste, c'est aussi une expérience, et c'est un plaisir qu'on éprouve à... Bon, je n'entre pas dans les détails, parce que ça nous emmène un peu très loin, un peu trop loin. Mais enfin bref, un comportement n'est pas quelque chose de génétiquement programmé, donc on peut parler de gène du comportement.
Bon, alors est-ce que les effets des choses acquises en matière de comportement ne sont pas plus fortes que...
Ah bah alors, personnellement, vous savez, hein, je crois qu'actuellement, aucun biologiste sérieux ne peut dire à part de la génétique, enfin des gènes et d'apprentissage dans un comportement humain, mais je ne parle pas d'intelligence, je parle de comportement. C'est une chose, c'est une peur. Mais personnellement, je serais tenté de dire que la plus grande partie vient d'apprentissage. Un enfant qui vient de naître n'a pas de comportement parce qu'il n'a rien appris. Et il va avoir un comportement qui va dépendre de l'apprentissage, c'est-à-dire du milieu dans lequel il se trouve. Et ensuite, son comportement viendra de son expérience cognitive et l'expérience ensuite qu'il aura eue au cours de son enfance, son adolescence. Donc ça, c'est évidemment, je pense, personnellement, qui tient pas la vérité. Mais je pense que beaucoup de gens... Moi, actuellement, beaucoup de biologistes, je pense que beaucoup de biologistes, c'est plus modeste, mais c'est que la part de l'acquis est considérable. Un enfant, je dis toujours pour me faire comprendre, un enfant, même issu du spermatozoïde d'un prix Nobel avec un ovule de femme surdouée, si on le laisse dans un milieu non humain, il ne viendra jamais un homme, il ne saura jamais marcher ni parler. Il n'aura aucune des caractéristiques comportementales de l'homme. Il aura l'aspect extérieur d'un homme, un phénotype. Son aspect extérieur sera celui d'un homme parce que les gènes humains ont commandé son aspect extérieur, mais son comportement ne sera pas celui d'un homme.
Les thèses des partisans de Linné, c'est de rétorquer que ce même individu, par rapport à un autre individu moyen, en même situation approximative socioculturelle, aura un développement plus avantageux.
Oui, ça dépend. Aucun homme n'a le même environnement. Ça.
C'est pas approximatif. C'est
pour ça. Approximatif, il n'y a qu'à regarder dans une famille, dans une fratrie, comme on dit. Oui, c'est le terme utilisé. Mais il n'y a pas un enfant qui te ressemble et qui a le comportement de l'autre. Même les jumeaux, il y en a un qui est sorti avant l'autre, et les comportements des parents n'est pas le même pour chacun d'eux. Ils sont d'un milieu social, et leur comportement sera entièrement lié à ça, et dépendant de ça.
Je vais demander aux auditeurs de bien vouloir ne plus téléphoner de questions, parce qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes, il est 20h20. Et il y a deux choses que qu'on aimerait traiter avec Henri Laborie. C'est d'abord, on terminera par cela, c'est définir un terme. Et peut-être ce soir, pourra-t-on définir un terme qui avait été beaucoup utilisé par Henri Laborie. C'est celui d'automatisme. On pourra conclure notre émission ce soir par cela. Et puis donc, avant cela, nous parler un peu, Henri Laborie, de poésie. Ça n'a rien à voir, a priori, avec tout ce dont on a parlé depuis 18h30. Et je sais que c'est un sujet qui te tient bien à cœur.
Moi, j'ai écrit de longues pages. J'ai moi-même écrit pas mal de poèmes dans ma jeunesse et mon âge mûr. Même le premier livre publié, malheureusement, il est sorti en juin 40, c'était pas une bonne époque. C'est un recueil de poèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est assez long aussi, ça parlait de poésie. Je pense que la première chose à dire, c'est que on s'exprime avec des mots, parler ou écrit, et ces mots. J'en ai eu l'occasion aussi d'en parler ici. Sont le support d'une sémantique, c'est-à-dire de quelque chose qui signifie ce que veut dire ces mots. Et très rapidement, étant donné que l'expérience des mots à chacun d'entre nous est absolument unique et particulière, qu'un père et un fils ne se comprennent plus, mais qu'ils parlent le même langage, la même langue, parce qu'ils n'ont pas appris les mots dans le même contexte social, le point de vue sémantique des mots varie avec chaque individu. Et l'apprentissage qu'il a de ces mots, qu'il a fait de ces mots. Pour ça que la science, d'ailleurs, a essayé de réduire le problème, parce qu'on ne se comprend plus. En disant par convention, dès le départ, un exposé que j'utilise tel signe, ça veut dire tel objet, telle chose, et que celle-là. Et telle chose n'a comme image, comme représentation que tel signe. Et alors, ce n'est plus un symbole. Ce symbole, il fait appel à toute l'expérience de l'individu et de tous ceux qui l'ont possédé. Bon, tiens. Alors, c'est l'avantage de la poésie, l'avantage et l'inconvénient. Je rappelle l'art poétique de Verlaine, dans lequel, qui est un poète que j'ai adoré et que j'adore encore, d'ailleurs, qui dit « Il faut aimer la chanson grise où le précis et l'imprécis se joint. Pourquoi ? Parce que chacun trouve dans un vers à ce moment-là, si les mots sont bien choisis et si ce qui est évoqué est assez imprécis. Le précis, c'est le signifiant, c'est le mot. Mais il faut que l'imprécis et l'imprécis se joignent. Peut trouver chacun peut y mettre là-dedans toute son affectivité qui n'est pas celle de celui d'à côté. Et le même poème lu par quelqu'un n'aura pas la même signification et le même impact affectif que quand il sera lu par un autre. Alors, ce qui est le plus amusant, c'est ça, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que pourquoi y a-t-il des poètes ? Je crois que c'est parce que pour être poète, il faut être mal dans sa peau. Et que c'est une façon d'agir et de calmer sa névrose. À tel point d'ailleurs que quand il ne peut pas se faire éditer, d'abord il dira c'est qu'on ne comprend pas, tous des cons, hein, ça arrive, on n'a pas compris, le génie de ma poésie, et il ira jusqu'à se faire éditer à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il paiera pour avoir un livre hein, où ses immortels travaux seront écrits et qu'il donnera à des amis, à un certain nombre de gens, tout en ayant payé cette édition. Mais c'est en plus alors un excellent moyen de traiter la névrose. Parce que c'est une action. Écrire un poème, c'est agir. C'est exprimer l'inexprimable. Et dans ce cas... Mais alors, ce qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, même chez les meilleurs poètes. Hein, il y a toujours un mot, toujours, mon cœur, la fleur, l'âme, la flamme, je suis persuadé que si on mettait sur ordinateur, tu parlais d'ordinateur tout à l'heure, on mettrait sur ordinateur tous les mots de la poésie mondiale, et non pas seulement contemporaine, de tous les temps, il y aurait pratiquement presque toujours les mêmes mots qui reviendraient. Déjà, ça, je comprends. Alors, c'est une façon, effectivement, de se faire comprendre, d'utiliser des mots. Certains poètes modernes soignent leur névrose, mais on ne les comprend plus. Donc, à ce moment-là, ils ne font pas participer les autres à leur névrose. C'est dans l'acte d'écrire, auquel on ne comprend rien, eux comprennent, bien sûr, mais les autres ne comprennent pas. Ils se soulagent, ils soignent leur névrose en agissant en écrivant, ce qui est incompréhensible pour eux d'ailleurs, parce que l'affectivité, c'est l'inconscient, c'est pas tellement évident. Alors, la même chose pourrait être dite, je me souviens que dans Bernie qui n'a pas changé de conso, j'ai écrit une ode à la merde. Je l'ai signé Freud, œuvres inédites. C'est Freud a parlé du fait que l'enfant, quand il ne faisait pas sa crotte, c'était pour
venir reparler un peu.
Voilà. Bon. Alors, dans cette ode à la mère, je développe cette idée-là. Et je dis, ben, personne ne croira que c'est de la poésie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que déféquer, c'est pas poétique, alors que boire, embrasser, que d'autres fonctions physiologiques, respirer, hein, qui sont aussi physiologiques que la digestion et la défécation, ça devient poétique. Bon, ben, y a des choses que je comprends pas. Là. Tu me diras que c'est parce que dans le cas de dont je viens de parler, ça sent pas beau. Et pourquoi est-ce que ça sent pas bon? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'odeur? Alors, tu vois, on arrive, c'est inextricable. Il y a aussi, j'ai pris aussi un autre exemple, je fais un long chapitre sur la poésie maintenant. J'ai pris un autre exemple de Musset, l'année d'octobre. Poète, c'est assez, poète d'une infidèle, quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour. Ne souhaite pas ce jour lorsque tu parles d'elle, si tu veux être aimé, respecte ton amour. Fleur pour nous, je ne continue pas parce que c'est un peu long, l'année d'octobre. Alors j'avais fait une copie de cette nuit d'octobre dans un style qui n'était pas poétique. J'ai commencé au poète Cocus, au poète Monde, etc. Tu vois, genre. Et je me posais la question de savoir, étant donné que le signifiant et le signifié étaient le même, qu'est-ce qui faisait que l'un ne serait pas jugé comme de la poésie et l'autre comme. Était jugé comme de la poésie. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre et à juger.
Henri, on est bousculé par l'horaire.
Oui.
Pour conclure, oui, mais si on peut instaurer ça aussi petit à petit, ça se forme.
Oui.
Mercredi prochain.
Non, mercredi prochain, alors là, je ne sais pas si je pourrais venir. C'est parce que je reviendrai. Bon, je vais parler
mercredi prochain
à Strasbourg. Je reviendrai, je prendrai le train à 10h et puis je serai là à 2h. Il faut que je sois ici en me tapant 1h30 de 1h15 de réunion.
Pour parler.
Oui,
pour conclure, oui. Automatisme.
Qu'est-ce que tu sais conclure, hein, bon, en 3 minutes.
Deux
minutes. Deux. Ben, quand tu. Bon. J'ai parlé plusieurs fois ici d'un pianiste de concert qui est conscient de la difficulté qu'il a à réaliser un trait de l'œuvre qu'il veut interpréter. Pourquoi un pianiste de concert? Un autre d'ailleurs, un pianiste. Et il a recommencé pendant 3 mois, quelquefois, à répéter le même trait pour ne plus avoir à y penser. Il est devenu inconscient parce que tout automatisme, il se crée un automatisme parce que tout automatisme est inconscient. À ce moment-là, il est toujours aussi conscient. Mais il n'est plus conscient des. Bien sûr qu'il n'est pas conscient des neurones qu'il met en jeu dans son cortex orbitofrontal pour faire marcher quel muscle il fait marcher, quel nerf il met en jeu, etc. Bon, ça, c'est déjà, c'est strictement inconscient. Mais il est conscient d'une difficulté à vaincre et il répète plusieurs fois la chose pour. Le trait pour pouvoir le faire sans faute. Et il est aussi conscient, après qu'il est devenu autochtone, mais il va être conscient pour faire autre chose, c'est-à-dire donner une sonorité qui permet d'exprimer son effectivité à travers l'œuvre qu'il est en train d'interpréter. Un automatisme, c'est ce qui, dans, nous ne sommes qu'automatisme, pratiquement, nous ne faisons que ça. C'est ce tous les... Là, j'ai pris... un geste, hein, mais ce sont tous les concepts, les langages, tout ce qui fait que nous n'avons plus à penser, à être conscients de ce que nous mettons en jeu pour réaliser une action. Et nous faisons 95% de notre comportement est automatique, sans ça on pourrait pas vivre. C'est agréable l'automatisme, parce qu'on n'a plus à y penser. C'est automatique de marcher, de respirer, etc. Mais ça prend. Et si je disais tout à l'heure, un enfant qui vient de naître ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, et ça aussi ce sont des automatismes. Mais alors quand on passe au concept, tous les concepts sont des automatismes, tous, à moins qu'on les remette en question, et pas simplement celui qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, mais tous. Là, ce que c'est qu'un automatisme, c'est sûr, il y a très longtemps à parler, c'est de la mémoire, et la mémoire ça se pèse. Hein, tu peux empêcher l'apparition d'un automatisme en empêchant la synthèse protéique. C'est de la mécanique.
Henri Damory, merci. Il est 20h30, humeur se termine. Nicole était à la technique, Jean au standard, Gérard au micro. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont restés à l'écoute. Radio Libertaire poursuit avec Marianne et Claude jusqu'à 22h30. La vie est un roman. Bonsoir à tous. Applaudissements.